mais c'est comme dans ma petite enfance. La cloche pour la récréation, y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à chanson.
La vie de factory de Clémence Desrochers.
Oui, une magnifique chanson inspirée du thème de votre chronique d'aujourd'hui, Anne-Marie Aubin.
Oui, d'ailleurs, je regrettais de ne pas vous avoir suggéré cette chanson-là, puis elle est là, alors c'est parfait.
Oui, on a fait de la télépathie peut-être. Ouais. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du plus récent ouvrage de Marie-Hélène Voyer. Je me souviens d'avoir lu L'habitude des ruines, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Cette fois, c'est Précieux sang, c'est publié aux éditions La Peuplade.
Oui, c'est un livre qui se divise en deux parties. La première, c'est de la poésie, qui ensuite est suivie d'un essai qui s'intitule « Voir avec des yeux de chair ». C'est un recueil, toujours comme elle sait le faire, passionnant, qui fait hommage aux femmes dans l'ombre qui ont travaillé en usine. Et comme le gouvernement du Canada a désigné octobre le mois de l'histoire des femmes pour célébrer celles qui ont fait l'histoire, je me disais que ce titre-là arrivait tout à fait dans la thématique de ce mois d'octobre. Alors, Marie-Hélène Voyer, oui, j'en ai parlé deux fois dans mes chroniques pour Mourons des champs, un recueil de poésie à la Peuplade qui s'était mérité. Ben, elle avait gagné le prix des libraires en doublé cette année-là pour ça et pour L'habitude des ruines.
Oui, l'essai.
Puis moi, j'avais adoré les deux titres et là, j'ai pas été déçue non plus dans ce livre qui fait à la manière de Mourons des champs des textes poétiques, des fragments, dans une langue qui est très près de l'oralité. On sent que c'est une personne qui a grandi auprès de gens dans les lieux ruraux, elle a su les écouter, les observer, puis ce sont des gens de peu de paroles, mais qui ont des expressions qu'elle reprend dans ça. C'est très riche comme livre. Il y a des énumérations de qualificatifs, de manière de parler des femmes qui fait très, très, très oral. Et puis aussi d'actions qui sont répétitives, qui font en usine. On sent qu'elle a fait une recherche rigoureuse, qu'elle a fait beaucoup de lectures. Peut-être qu'elle a cueilli des témoignages. C'est très réaliste. On sent qu'il y a des noms qui sont cités. Par exemple, les victimes d'une usine avec leur âge, leur nom. Alors, ces gens-là sont morts parce qu'ils ont respiré des substances toxiques ou il y a eu un incendie ou autre chose. Et au bout de tout ça, on sent que beaucoup de femmes ont abîmé leur santé, parfois ont payé de leur vie. Pourquoi? Pour le profit, la productivité. Et tout ça, c'était avant qu'il existe les syndicats qui protègent les gens, finalement. Et le titre « Précieux sang », c'est un petit peu sarcastique parce que ça peut faire penser au sang du Christ. Il y a une communauté religieuse à Saint-Hyacinthe ici qui s'appelle les religieuses du précieux sang de Jésus, qui sont des cloîtrées, donc des femmes qui finalement sont isolées. Mais aussi, il y a question du sang des bêtes qu'on abat dans l'abattoir, puis du sang de ces femmes qui ont été sacrifiées, évidemment, pour le progrès des usines.
Oui, parce que la jaquette du livre nous montre une femme, en tout cas un visage de femme avec du sang, comme si les larmes étaient en sang.
Oui, puis il y a question d'une personne qui est borgne, qui est une grande tante, et elle nous dit que, bon, l'usine a mangé, a viandé mon visage, quelque chose comme ça, pour montrer comment, finalement, il arrivait plein d'incidents dont on n'a jamais parlé et qu'il fallait continuer, il fallait que la chaîne continue, il ne fallait pas s'attarder à ça.
On avance, malgré la tragédie.
Oui, c'est cruel. Il y a des fois, il y a une fille que ses cheveux sont dans le rouleau compresseur, je sais pas quoi, là, puis là, bon, ben, il dit, il faut pas arrêter, là, enlève les cheveux de là, il faut que ça continue à produire. Alors, c'est vraiment
cruel.
Oui, et puis bon, ben, dans la première partie, on parle des femmes en général, puis elle va donner des noms à ces chapitres. Par exemple, le premier, c'est Simone des Radieuses Misères. Elle, a travaillé dans les usines d'allumettes et elle est morte, comme plusieurs autres, de la nécrose maxillaire ou encore empoisonnée par les vapeurs dans l'usine qui s'appelle E.B. Eddy à Hull. Alors, ensuite, il y a Clémence des Fulminantes Amorces. Elle travaille dans une usine de munitions. Puis, bon, ben là, il y a il y a une fille qui va mourir brûlée. Alors, je la cite. « Il paraît qu'une fille qui fumait cachée est morte brûlée raide dans les toilettes de l'usine à Saint-Paul-d'Hermite. Tu parles d'une place pour mourir. Moi, je pense qu'on nous raconte ça pour nous enlever l'envie de désobéir et d'aller pisser. » Parce qu'effectivement, il était surveillé à l'ouvrage, il y avait des contremaîtres, et puis bon, elle devait produire tout le temps. Ensuite, elle fait Florence des airs viciés. Ça, c'est le troisième chapitre, ça parle de l'amiante. Alors là, c'est sûr, ces gens-là ont travaillé en usine, et puis c'était des conditions très difficiles. Plusieurs ont attrapé des maladies par la suite. Et elle raconte, je la cite, « Femme sans fleuve, vous flottez dans les marées basses de nos mémoires, dans les ressacs assourdissants du présent. Nous vous rejoignons chaque nuit au ras du temps, sur ces rivages encombrés où les mortes et les vivantes ravaudent sur les grèves de l'oubli. » Donc, il y a des choses qui sont très réalistes où on raconte des situations, puis il y a des moments qui sont plus poétiques et ça ressemble à des complaintes finalement. La quatrième partie, c'est Marie des Immaculés Saints. Alors ça, c'est à l'abattoir, c'est vraiment épouvantable. On voit défiler les bêtes et puis elle voit ça, puis très jeune, elle raconte des anecdotes par rapport à ça, puis elle va dire, je la cite, « Quand je ferme les yeux, ça persiste, ça m'assomme, ça dépaisse encore, ça écorche, ça entaille. Tout ça me vire le cœur, tout ça chaque jour que le bon Dieu fait, chaque jour le cœur à la gorge, les vertiges d'ammoniaque, la senteur sombre de la mort, l'insistante familiarité du sang, la foi sans grâce. Six jours sur sept, je goûte dans l'air le jus des chairs, les sangs brouillés, des sentences de lymphe. Le septième jour, j'avale le corps du Christ. Un remords pâle.
Ouais.
Bon, alors on sent comment c'est dur dans l'usine, ce qu'ils voient, puis ces bêtes-là, puis là, il y a du sang, effectivement. Puis la cinquième partie, c'est Germaine des Guenilles. Alors là, c'est l'usine de couture, les gens qui travaillent dans le textile. Puis elle dénonce finalement comment il y avait des filles qui, pour monter de grade, ben finalement étaient fin-finaudes avec le contremaître. Puis cette Germaine-là qui se prenait pour une autre, ils l'ont toute comment pris à partie, sont mis à rire d'elle, mais elle va mourir brûlée dans des circonstances vraiment un peu comiques, finalement. Puis là, ils vont l'appeler Sainte-Germaine, puis ils vont la prier chaque jour. Fait que finalement, il y a beaucoup d'humour dans même ce drame noir-là. Il y a un peu, finalement, de visions qu'elle va avoir qui vont rendre la chose un petit peu moins dramatique.
Il y a des ressorts comiques.
Oui, et puis la dernière partie qui est beaucoup plus courte, ça s'appelle « Voir avec des yeux de chair ». C'est un petit essai où il y a des fragments qui sont beaucoup basés sur ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Et « Voir avec des yeux de chair », ça vient de l'Ancien Testament et ça vient du livre de Job, c'est ce qu'elle nous dit. Bon, ben elle va raconter des anecdotes de sa vie qui sont très intéressantes. Par exemple, elle est toute petite, elle a 10 ans, elle passe un été à photographier toutes sortes de choses avec une caméra qu'elle va trouver dans les choses de sa mère, une caméra instamatique là, qui fait clic-clic quand on tourne. Bon, puis au bout de l'été, elle va dire à sa mère, ben ça serait bien de faire développer le film pour que je voie mes photos. Et sa mère lui dit, mais il n'y a pas de film là-dedans. Alors, elle a photographié tout l'été des choses qu'elle ne pourra pas voir, mais elle dit, ces images existent pourtant avec une surprenante exactitude dans ma mémoire. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que moi, quand je voyage, j'essaie de prendre le moins de photos possible, mais de les enregistrer dans ma mémoire parce que je trouve que les gens prennent beaucoup trop de photos. C'est la folie furieuse depuis qu'on a des téléphones. Et là, je vois que c'est un peu ça qui est arrivé finalement. Et on voit l'observatrice en elle qui a rêvé ces images-là. Et plus loin, elle va dire qu'elle adore les photos qui sont un peu ratées, qui sont pas bien
cadrées.
Oui, comme celle qui est sur la page couverture, qui est un peu déchirée, tout ça. Elle est fascinée par les photos. Elle va faire quelque chose là-dessus, c'est sûr, un jour. Donc, ces photos imaginaires de son été, ben c'est ça qui ouvre la deuxième partie. Puis ensuite, elle raconte différentes anecdotes. Par exemple, un jour, ses parents, son grand-père et son père, étaient dans la grange, puis la grange s'est effondrée. Elle n'était même pas née à ce moment-là. Et elle a voulu, donc... qu'il le raconte, parce qu'il semble qu'au moment où ça s'est effondré, vite, ils sont sortis de la grange en riant. Puis, c'est tout. Puis plus tard, elle a voulu qu'il raconte ça, mais elle dit il y avait un refus de fabriquer rétrospectivement un récit de miraculé. Puis elle dira, dans nos albums de famille, nos photos sont sans légende. Alors, c'est vrai que souvent, on va trouver des albums de photos où il n'y a rien d'écrit sous les photos,
ouais.
mais c'est des souvenirs. Puis là, on sent très bien qu'elle, dans sa famille, les gens n'ont pas envie de raconter ces choses-là parce que c'est pas toujours drôle, effectivement.
Et ils n'identifient non c'est plus les personnages.
Oui, puis c'est une génération d'hommes qui parlaient pas aussi. Et puis bon, ben plus tard, elle va raconter aussi que sa grand-mère paternelle est allée quitter la place à Saint-Fabien-sur-Mer, là. Puis elle est partie travailler dans une usine à Montréal. Puis elle dit, mon grand-père est allé la sortir de là, l'a demandé en mariage. Puis maintenant, il y a un silence autour de ça. Puis elle, je la cite, sur cette parenthèse ouvrière, elle est avare de détails. Je n'insiste pas. Certaines images sont inaccaparables. Alors ça montre très bien la vie en usine. Puis ensuite, il y a sa tante Stella qui était borgne. Elle dit, l'usine m'a déviandé la face. C'est beau comment c'est dit.
Ah, c'est... Bref, moi, corps... ça me lève le cœur, le mot oui, déviander la face.
Ah oui, effectivement, c'est vraiment
cruel. C'est atroce, cruel. C'est violent.
Oui, puis il y a des scènes qui sont vraiment troublantes. Alors, je me dis, si cette théâtrice a vécu autour de ces personnages qu'elle décrit où elle a été vraiment marquée. Puis ensuite, toutes les lectures qu'elle a faites, les témoignages, les livres qu'elle a lus, c'est clair que ça l'a marquée et on le sent dans le livre. Et nous aussi, ça nous marque parce qu'on se dit, ouais, toutes ces femmes-là quand même, puis qu'on n'a jamais parlé de ça. C'est un sujet vraiment pas très répandu. Mmh. Là.
Est-ce que les deux parties sont d'égale force, Précieux sang suivi de voir avec des yeux de chair? Est-ce que vous avez été captivée par les deux parties de façon équitable?
Les deux sont
équitable?
Très intéressantes. L'autre est beaucoup plus bref et plus personnel, alors que l'autre, c'est sur les autres femmes.
Ouais.
C'est comme si elles se mettaient dans leur peau. Et ça, c'est bien, parce qu'elle l'a bien raconté, puis elle sait nous rendre la douleur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de leur corps. Et ces femmes-là ne se plaignent pas, elles ont une vie dure, mais c'est la vie qui continue un peu comme l'histoire de Clémence qu'on entendait en introduction, qui fait la même routine chaque jour, puis qui dit finalement, je suis pas un sujet à chanson, mm-hmm. mais c'en est une. Et toutes ces femmes-là étaient sujets à écrire des histoires. Et c'est pourquoi je pense que Marie-Hélène Voyer s'est penchée là-dessus. Elle a dû certainement prendre un congé sabbatique parce qu'elle enseigne la littérature au cégep de Rimouski, puis elle a dû prendre un congé parce que beaucoup de temps de lecture et de travail pour arriver à ce livre-là, qu'on appelle poésie, mais qui se lit comme un roman.
Précieux sang, c'est le titre qui est à la une, donc, qui est sur la jaquette du livre.
Oui.
Et c'est suivi de Voir avec des yeux de chair par Marie-Hélène Voyer, publié aux éditions La Peuplante. C'est 196 pages, c'est quand même pas trop décourageant comme nombre de pages.
Non, puis ce sont tous des petits fragments. Des fois, c'est 4 lignes, parfois
ah, oui.
c'est 10 lignes. C'est vraiment pas du texte comme un grand roman. Là. Ça se lit doucement et chaque chapitre a un thème avec aussi un chant et puis on sent évoluer la situation à travers le chapitre. Puis là, on voit combien, mon Dieu, de femmes se sont sacrifiées pour le bien-être de certaines compagnies. Là. Alors, c'est révoltant. Il n'y a pas d'autre mot.
Révoltant, mais il faut quand même s'y plonger.
C'est... Oui, c'est vraiment bon.
Allez,
oui.
Merci Anne-Marie.
Au revoir, à la semaine prochaine.